peux vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Côtes d'Igarigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Allez, bonsoir.
Bonsoir. On est obligé de rigoler, de faire des blagues avant parce que malheureusement les nouvelles dont on va vous parler sont pas forcément super joyeuses. Malheureusement, c'est souvent le cas à les Grégor. On aimerait vous faire part de plus de bonnes nouvelles, mais pour ça il faut lutter. Alors, ouais. Si vous voulez que on vous parle de choses positives et qu'on vous parle de victoire, ben vous savez ce que vous avez à faire. Hein, vous mettez en grève et puis, si possible, vous gagnez, mais au moins déjà vous luttez et puis vous venez nous raconter les luttes auxquelles vous participez ou dont vous avez écho. Faut le rappeler, hein, les Grégor est un micro qui est ouvert aux gens qui sont en lutte, quelle que soit leur lutte. Enfin, bon. Presque. De toute façon, normalement, si vous avez le numéro de téléphone, c'est que vous devez savoir de quoi on parle. Voilà, donc n'hésitez pas si pour une raison ou pour une autre, vous aviez envie, besoin ou la nécessité de publiciser une lutte à laquelle vous participez ou un sujet qui vous préoccupait, n'hésitez pas à nous contacter, on est aussi là pour ça. Alors, dans un premier temps, dans l'émission, on va continuer à vous parler de Dera Courtaille. Hein. Ça fait bientôt maintenant un mois et demi qu'on vous narre la lutte, le combat de cette femme pour l'obtention de son statut de réfugié politique. Et ce matin, il y avait une audience à la Cour administrative d'appel de Paris pour l'annulation de son obligation à quitter le territoire qui lui avait été délivré par la préfecture du 78. Alors, cette OQTF, elle avait été contestée d'abord au tribunal par Zera et ses défenseurs et ses soutiens. La décision du juge en première instance avait été d'annuler l'OQTF, de donner à Zera un titre de séjour provisoire, la première fois 3 mois, la seconde 6 mois, afin de lui permettre un réexamen de son dossier par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, la célèbre OFPRA, afin de comprendre d'une part pourquoi son statut avait été annulé, puisque Zera a bénéficié pendant 18 ans, d'un statut de réfugié politique, et ensuite comment et pourquoi elle pouvait de nouveau faire sa demande. Alors, jeudi matin, on est allé à l'OFPRA pour demander à être reçu. Elle a été reçue pas longtemps, une petite demi-heure, où d'après ce qu'on nous a raconté, l'OFPRA s'est montré plutôt poli et bienveillant, mais a fait part de son incapacité, de son impossibilité à débloquer de quelque manière que ce soit la situation, en renvoyant la responsabilité sur la justice administrative, et donc en stipulant que l'OQTF devait d'abord être annulée et qu'ensuite il y aurait un réexamen de son dossier. Sur la justice administrative, rappelons donc que les décisions avaient été positives pour DERA, mais que c'est la préfecture hein, qui a fait appel à deux reprises. Voilà ce qu'on fait avec votre argent, hein, évidemment. Hein. C'est tellement bien. Et comble de l'indélicatesse et de la saloperie de la préfecture et de la justice française, on a donc une femme qui est en grève de la faim depuis 180 jours. Aujourd'hui, c'est son 195e jour de grève de la faim. Elle pèse 36 kilos. Elle est dans un état qui va s'approcher des conditions critiques, qui se dégrade très rapidement pour l'avoir rencontrée à de multiples reprises au cours de cette grève de la faim. On sent là qu'on a basculé vers quelque chose qui est en train de devenir très dangereux, puisque son affaiblissement est palpable, hein, véritablement. Vous allez l'entendre d'ailleurs, puisqu'on a pu échanger quelques minutes avec elle, à quel point il est difficile pour elle de se concentrer, d'avoir une relation et une conversation idoine, en tous les cas lucide, pendant un certain moment. Elle pèse moins de 40 kilos. Elle est en fauteuil. Et depuis bientôt une semaine, comme elle l'explique, elle ne peut plus rien avaler, quoi. C'est-à-dire que la grève de la faim, en général, est permise par l'approvisionnement en sucre, en vitamines, en jus d'orange, en eau salée, en eau sucrée, afin que le corps puisse assumer ses fonctions vitales minimales. Et là, évidemment, l'estomac se rétrécit, les reins et le foie, ont de plus en plus de mal à fonctionner. Et sur les échanges que j'ai eus avec elle ce matin, elle nous a confié qu'elle refuserait de se faire hospitaliser. Ce qui signifie que pour pouvoir avoir une intervention médicale, il va falloir qu'il se passe quelque chose de grave, et donc on ne peut espérer que cette audience se déroule bien. Alors, je te propose de l'écouter quelques minutes, et puis on conclura là-dessus sur comment ça s'est passé ce matin et qu'est-ce qui peut en découler. Voilà. On essaye, Camille, s'il te plaît.
Bon, bonjour.
Bonjour.
Merhaba Zera.
Merhaba.
Merci de m'accorder quelques instants. D'abord, je voulais savoir comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu vas, quel est ton état d'esprit.
Aujourd'hui, 104e, 11e jour, désolé. Je suis fatiguée. Je ne peux pas marcher bien. Maintenant, je ne peux pas dormir. À cause de ça, je suis fatiguée. Je ne peux pas bouger. Grâce à mes camarades, on fait beaucoup de choses. Maintenant, je ne peux pas manger du sucre. C'est nouveau. Il faut prendre du sucre, mais je ne peux pas. Maintenant, c'est comme ça.
Alors, ce qui est toujours incroyable avec toi, Zera, c'est que tu nous parles, tu as le sourire, tu as la force. Tu es vraiment un grand exemple pour les gens qui luttent. Vraiment, c'est incroyable. J'espère qu'on va être de plus en plus nombreux à venir te soutenir, notamment lundi. Au tribunal. Là, tu as été reçu par l'OFPRA,
Non.
Non, ils n'ont pas,
pas
voulu.
Encore.
Pas encore.
On attend la date. Aujourd'hui aussi, on est venu ici pour les dates parce que presque 7 mois. Presque 7 mois, je suis toujours en grève de la faim. Maintenant, mon état, c'est critique. Je ne sais pas, ils savent ou ils ne savent pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est venu ici pour dire je suis sous la risque.
Ok. Il y a lundi. Lundi, on va revenir te soutenir au tribunal de c'est pas Melun, tribunal administratif, peu importe, pour
le 4e.
Voilà, le contestation de l'OQTF. Et oui. On espère qu'on sera le plus nombreux, encore plus nombreux, encore oui. plus nombreux. Parler de toi, faire la publicité sur ton oui. cas, qui est un cas vraiment emblématique. Et puis, de toute façon, afficher la solidarité oui. avec les militants révolutionnaires oui. d'ici, en France, en Turquie, qui se battent oui. contre les prisons.
Oui.
C'est quoi, Y ?
SY, les prisons, ce sont nous au système. Il y a l'isolement qui est lourd. Nos camarades résistent pour ça. Parce que maintenant, nos camarades entre nos camarades, c'est pas tout seul. C'est nos système peut rester tout seul au milieu de 4 murs qui est 8 mètres carrés. C'est bloqué avec inox. Vous ne voyez pas le soleil, vous ne voyez pas du ciel, vous ne touchez rien. Il y a l'isolement qui lourd. On résiste pour ça.
Et en plus,
parce ouais. qu'on est humain, on est révolutionnaire, on a besoin du soleil, on a besoin de l'air, on est humain.
C'est ça. Et en plus, les prisonniers turcs, les prisonniers révolutionnaires turcs, ils ont toujours lutté, ils se sont oui. organisés oui. dans la prison. Il y a même parfois des jeunes qui rentrent, oui. qui se politisent.
Oui.
Donc, le collectif, il est oui. très important pour oui. les prisonniers en général et pour les prisonniers révolutionnaires en particulier.
Ils sont très dynamiques. On n'accepte pas l'injustice du fascisme du Turc. On doit résister.
Alors, ça veut dire que ta lutte ici, elle est aussi un oui. peu en écho de la lutte là-bas ?
Oui, parce que je viens du fascisme. Je ne suis pas né en Europe. Je suis né au milieu des conditions du fascisme.
Ouais.
J'ai appris qui a résisté tout le temps, jusqu'à la mort. Moi aussi, j'avais fait la grève de la femme contre l'isolation du fascisme l'année 2000. J'avais fait pendant 6 mois la grève de la femme. Après, j'ai perdu mon mémoire à cause de la force pour
l'alimentation forcée.
Oui. C'est pour ça qu'on avait la tradition pour résister. Parce qu'on est l'Anatolienne. Depuis 60 années, on voit le fascisme du Turc, de Turquie. On n'accepte pas. On est révolutionnaire anatolien, on doit résister.
Alors tu vois, oui, c'est alors en plus elle fait l'effort de s'exprimer en français, mais tu sens que là elle est vraiment arrivée au bout de ses forces, quoi. Et alors je sais pas si ça transparaît dans ce que je dis, elle est véritablement extrêmement désarmante parce que c'est quelqu'un qui a une force et un sourire qui va t'embrasser, qui va te toucher, alors qu'elle est en fauteuil dans un état vraiment difficile. Je pense que dans ma voix et dans la manière dont je le transcris, vous pouvez ressentir quelque peu mon émotion, quoi, mon trouble en tous les cas, parce que de voir ça, de voir quelqu'un qui est à la fois sur une sérénité, une détermination et en même temps une joie. Aller jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire, tout ça pour avoir une merde de papier, c'est véritablement révoltant, quoi. Et donc ce matin, alors malheureusement j'ai pas pu, je me suis entretenu que quelques secondes avec son représentant, son avocat, puisque comme tout avocat il est débordé, hein, donc il court partout, il est en retard. D'après lui, il reste plutôt positif et optimiste. Alors évidemment, il voit ça lui d'un point de vue strictement administratif et juridique, hein, bien sûr. Hein. Même si il voit bien que la situation est critique. Pourquoi il est optimiste? Parce que à deux reprises, le tribunal administratif a autorisé la préfecture de Melun, donc du 78. À délivrer, à annuler d'une part l'OQTF de Zera Courtaille et de lui octroyer un récépissé dans un premier temps de 3 mois, puis dans un second temps de 6 mois, afin de pouvoir réexaminer sa demande de statut de réfugié politique. Donc, n'ayant pas à sa connaissance de nouveaux éléments juridiques de la part de la préfecture, il n'y a pas de raison que la décision contrevienne à ce qui avait été donné en première instance. Alors, la difficulté, c'est que la décision du tribunal ne pourra advenir, enfin, elle a certainement déjà été prise, je l'ai pas, je peux pas vous le dire, j'étais pas là. Elle ne sera donnée que d'ici 10 jours, 11 minimum. Hein, c'est les délais d'administratif, hein, du droit administratif de la jurisprudence, de ouais, et que désormais chaque jour, hein, chaque heure, hein, va devenir de plus en plus compliqué pour le corps de Zera. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de là où on est, si on a un intérêt quelconque à cette situation? Alors, malheureusement, pas grand-chose, hormis faire de la publicité autour de son cas, afin que tout cela ne reste pas dans le secret de la saloperie administrative et de la saloperie préfectorale. Il y a évidemment la possibilité de signer des pétitions en ligne. Hein. Il y a un Instagram qui est mis en ligne. On peut évidemment écrire à l'OFPRA, envoyer des mails et passer des coups de téléphone, idem pour la préfecture. De toute façon, il y aura quoi qu'il arrive une suite à cela. Alors, on était un petit peu plus nombreux ce matin, on était une cinquantaine devant la cour d'appel administrative ou la cour administrative d'appel. Ça dépend comment on dit. J'ai été frappé. Bon, il y avait la moitié de Turcs, la moitié alors d'Anatoliens plutôt, la moitié de soutien extérieur, des Turcs qui étaient venus d'Allemagne, de Belgique, d'Angleterre. Roulé toute la nuit pour avoir une présence. La cour d'appel étant une salle assez petite, hein, dans le vieux Paris, à peine 40 places, évidemment. Priorité aux gens qui ont fait de la route, hein, et qui sont proches, hein, ça après. Mais tous ces gens avaient une détermination et nous expliquaient que ce que faisait Zera, elle le faisait pour chacun et pour chacune d'entre elles. À la fois évidemment ses camarades turcs qui peuvent être dans une situation similaire, mais aussi l'ensemble des réfugiés politiques, et que, comme Zera l'a dit, c'est en écho avec le combat que mènent à la fois ses camarades et les prisonniers turcs dans une nouvelle réforme carcérale qui crée des conditions d'isolement vraiment qu'on peut qualifier de torture, quoi. Alors, ce qui est sûr, c'est que Zera est toujours sur la liste du ministère de l'Intérieur de Turquie, classifiée comme terroriste, alors que ça fait 18 ans qu'elle n'a pas mis les pieds en Turquie. Sa tête est mise à prix à 2 millions de livres, pour qui permettra l'arrestation et le renseignement. Elle est clairement en danger, physiquement et judiciairement. Si elle retourne là-haut, il est évident que judiciairement ça ne peut pas tenir, que ce soit d'un point de vue strictement franco-français ou européen, si on monte à des instances supérieures. Mais d'ici là, il peut se passer plein de choses. Mais bon, on aura bientôt la suite. Voilà.
Ok.
Alors, j'avais pas prévu de faire aussi long, mais tant pis, on va passer directement à l'autre chose, puisque on est dans les choses réjouissantes. Alors, vous avez certainement entendu ou vu ou eu écho de ce qui s'était passé à Sainte-Soline et qui est ressorti ces derniers jours sous deux aspects. Le premier, c'est que le procureur de la République qui était en charge de mener une enquête sur deux aspects. Le premier, c'était violence volontaire. Le second, non assistance à personne en danger, a classé sans suite les deux plaintes qui avaient été déposées. Et dans la foulée, il y a eu la révélation par deux organes de presse, Mediapart d'une part, Libération de l'autre, conjointement, qui ont diffusé quelques extraits d'environ 80 heures de vidéos qui avaient été enregistrées par les caméras piétons et qui avaient été versées au dossier. Alors, sur ces images, qu'est-ce qu'on aperçoit? Ben, on aperçoit le gendarme en liberté, hein, c'est-à-dire le gendarme qui est très content de venir faire la guerre et qui, visiblement, se sent extrêmement à l'aise pour pouvoir, sur les actes non réglementaires, le vocabulaire ordurier, grossier et injurieux, et d'une manière générale le plaisir qu'ils ont à être là pour pouvoir casser du manifestant, être dans une grande liberté, puisque, voire certainement une couverture, puisque là on a accès alors à des choses qu'on connaît, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'avoir affaire à ce type de personnes, mais concentré sur la durée et multiplié par le nombre de gendarmes qui étaient là, c'est assez impressionnant. Alors, bon, pas surprise hein, de ce côté-là, à part l'indignation de bon aloi des sociaux-démocrates divers et variés qui semblent redécouvrir à chaque bavure, ratonnade et autres saloperies des forces de l'ordre, que de nos amis les bêtes, que c'est incroyable, ça continue. Ce qui nous intéresse, nous, plus, c'est qu'est-ce qu'on peut en sortir de cela, d'une part, et puis la réaction des premiers concernés, d'autre part. Ce week-end, ce samedi, il y avait dans la ville mère de Poitiers, le lieu qui est pas très loin de Sainte-Soline, hein, la grande ville, et le lieu de résidence de certains des blessés graves et des requérants dans cette affaire, une après-midi qui a été l'occasion de faire le point sur l'état de la procédure, d'une part, et puis surtout qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier et comment on pouvait continuer. Alors, Il y a eu plusieurs interventions. Il y a eu des interventions de la LDH qui était présent comme observateur et observatrice de ce qui se passait, qui étaient sont revenus plus précisément sur la question de la non-assistance à personne en danger en décrivant ce à quoi ils avaient pu assister et qu'est-ce que ça donnait d'un point de vue juridique, pénal pour le coup. Et il y avait ce qu'on a choisi de vous passer, ce qu'on ne peut pas passer, ça a duré 3 heures, la déclaration préalable du collectif des blessés et d'un des parents de Serge qui revient sur l'ordonnance de classement du procureur de la République, ce qu'on a choisi de vous diffuser là, puisque c'est pas des paroles dans la longueur qu'on entend. Alors, il y avait un peu de monde, hein, il y avait 200, 250 personnes, preuve que le truc est encore chaud, hein, dans la région et que l'émotion et l'indignation est encore très présente. Et puis, il va y avoir la suite, mais ça, Françoise, qui fait son exposé, va mieux l'expliciter que moi dans quelques secondes. Si, évidemment, ça fonctionne, c'est toujours la grande surprise, hein, les Grégor. On y va, on lance.
Pour dénoncer les violences policières et l'entrave volontaire à l'arrivée des secours pendant la manifestation. Alors, ce collectif, il comprend Michael, Serge, Alix et Olivier, donc 4 personnes qui ont été gravement blessées par les forces de l'ordre pendant la manifestation. Mais il comprend aussi des proches de Serge et de Michael, parce que, comme ils étaient alors tous les deux dans le coma, c'est Nathalie, la mère de Michael, qui est là avec lui, et nous, Jean-Pierre et moi, les parents de Serge, qui avons porté plainte à leur place. Alors, après 2 ans et demi de suspense, le procureur de la République, Frédéric Tellier, a récemment classé sans suite notre plainte collective. Confronté aux nombreux tirs non réglementaires de gendarmes que Mediapart et Libération ont rendus publics en diffusant le 5 novembre dernier des vidéos enregistrées par leurs caméras piétons, M. Tellier a tergiversé pendant 1 mois. Et puis, le scandale créé par les vidéos et la pression de certains médias ou élus l'ont finalement conduit à annoncer l'ouverture d'une information judiciaire sur ces tirs. Mais par avance, il a minimisé les sanctions possibles de leurs auteurs en ne retenant que l'infraction de violence volontaire. Je reviendrai dessus. Alors, nous contestons ces décisions de Frédéric Tellier. Nous contestons aussi la façon dont il a procédé dans le traitement de l'enquête sur Sainte-Soline. Et notre critique vaut pour Philippe Astruc, le prédécesseur de Frédéric Tellier au tribunal de Rennes qui est en charge d'affaires militaires. Ces deux procureurs se sont en effet ingéniés à gober ou à masquer la répression policière à Sainte-Soline, en particulier les actes illicites commis par les forces de l'ordre sur des instructions forcément venues des hautes sphères au vu du nombre de ces actes, de la décontraction montrée par les gendarmes qui les accomplissaient, et des ordres que l'on entend des supérieurs leur donner dans les vidéos des caméras piétons. M. Tellier a ainsi prétendu longtemps ne pas avoir eu connaissance de tirs tendus lors de cette manifestation. Et de même, des ministres ont minimisé le nombre de ces tirs. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a ainsi évoqué des gestes de violence qui pourraient ne pas être proportionnés. En fait, non seulement les procureurs Astruc et Tellier connaissaient l'existence de ces tirs, mais ils ont choisi de ne pas pousser les investigations à leur sujet, comme sur d'autres sujets gênants pour le gouvernement. L'attitude de messieurs Astruc et Tellier illustre bien l'absence d'autonomie des procureurs de la République par rapport à l'exécutif. Le fait d'être placé sous l'autorité directe de la chancellerie rend ces procureurs assez frileux dès lors qu'ils veulent faire carrière. Soit ils cèdent à des pressions, soit ils tendent à s'auto-censurer, comme l'a récemment souligné le journal Le Monde en notant leur peu de zèle à propos de Sainte-Soline. Quoi qu'il en soit, nous ne laisserons pas le silence recouvrir les violences policières à Sainte-Soline. Nous sommes en train de déposer une nouvelle plainte collective avec constitution de partie civile pour que l'enquête soit relancée. Alors, maintenant, je vais revenir plus longuement sur le déroulement de l'enquête qui a été menée par l'IGGN, l'Inspection générale de la Gendarmerie nationale, Et puis je reviendrai sur les annonces faites par M. Théier le 4 décembre dernier. D'abord, concernant l'enquête de l'IGGN. En juillet 2023, pour répondre à notre dépôt de plainte sur les violences policières et sur l'entrave à l'arrivée des secours, le procureur Astruc a choisi de confier l'enquête à l'IGGN. Il a préféré charger de cette enquête la police de la gendarmerie, dont les enquêteurs sont doublement dépendants par rapport à leur hiérarchie et par rapport à leurs collègues, plutôt que de nommer un juge d'instruction. Et ce faisant, il a rendu la procédure et l'état d'avancement des investigations inaccessibles à notre avocate et à nous-mêmes. Ensuite, l'IGGN a retardé à plusieurs reprises la remise de son rapport sur ces investigations. L'enquête n'a été close que le 5 juin 2025. Et les conclusions du rapport de l'IGGN étaient à la fois partiales et lacunaires, comme nous l'avons souligné dans notre dernier communiqué. Quelques jours à peine après la manifestation du 25 mars 2023, Libération le 2 avril et Le Monde le 6 avril, avaient publié des enquêtes fouillées sur les tirs non réglementaires opérés par les gendarmes au LBD, lanceur de balles de défense, et au lance-grenades, Cougar. Le Monde avait déjà considéré que l'un de ces tirs, parti d'un blindé de la gendarmerie, avait très probablement, selon ses termes, atteint Serge. Ce journal avait aussi révélé qu'un autre manifestant avait été gravement blessé par un tir tendu au lance-grenades Cougar. Ces enquêtes de journalistes ont fourni aux experts missionnés par l'IGGN une masse de données importantes, en particulier sur le tir qui a atteint Serge. C'est pour une bonne part grâce à ces données que les experts ont établi précisément comment il avait été blessé, non seulement d'où était parti le tir, mais aussi quelles munitions et quelles armes avaient été utilisées. Mais à la lecture du rapport de l'IGGN, on constate que ces experts se sont efforcés d'atténuer la précision des informations recueillies. On peut par exemple y lire, citation, « Le projectile en cause est très certainement une grenade lacrymogène CM6 ou MP7 lancée par un lanceur Cougar. Les CM6 et les MP7 sont deux marques d'un même modèle de grenade. » On peut lire aussi les caractères de la zone d'impact, donc la boîte crânienne de Serge, suggèrent que la grenade aurait non réglementairement été tirée en tir tendu. Ce tir a été réalisé à un angle de 10 degrés et non des 45 degrés requis pour utiliser un lance-grenade Cougar. Cependant, dans d'autres passages du rapport, le conditionnel et les contorsions stylistiques des experts disparaissent. Et on trouve par exemple un VBRG, c'est-à-dire un véhicule blindé à roues de gendarmerie, donc un VBRG est identifié sur vidéo comme étant à l'origine d'un tir tendu de grenade en direction de Serge. Un expert en balistique a aussi écrit que, comme la grenade avait atteint Serge à la tête sans débouter, ce qu'elle aurait, paraît-il, fait si elle avait été lancée réglementairement, c'est-à-dire en cloche, il s'agissait d'un tir non conforme. Mais en fait, l'IGGN n'est pas seul à avoir évité de chercher les auteurs de tirs tendus. Les procureurs Astruc et Théier ont fait de même. Contrairement à ce qu'a déclaré M. Théier le 5 novembre 2025, après que Mediapart et Libération ont diffusé les vidéos des caméras piétons emportées par les gendarmes, il avait bien, comme le procureur avant lui, été informé par l'IGGN de l'existence de tirs tendus. C'est seulement un mois après que, interrogé par Le Monde, on va voir son édition du 4 décembre, M. Théier a fini par le reconnaître. Il a déclaré à ce moment-là que l'information de l'existence de tirs tendus avait été transmise à son prédécesseur et figurait également dans des PV de synthèse partielle qui lui avaient été transmis en même temps que la procédure à sa clôture. Et en effet, si l'IGGN a juste mentionné dans les conclusions de son enquête l'existence de tirs non conformes, elle avait signalé au procureur Astruc dans ses deux rapports de synthèse intermédiaire rendus en mars et en août 2024 le contenu problématique des vidéos. On peut de plus lire dans ces rapports intermédiaires les investigations permettent de constater qu'à la marge, certains gradés ont donné des instructions pour effectuer des tirs communément appelés tendus. Mais ni le procureur Astruc, ni le procureur Théier n'ont demandé pour autant une nouvelle audition des hauts gradés qui avaient affirmé aux enquêteurs de l'IGGL l'absence de tir tendu pendant la manifestation. Mieux encore, c'est à la demande du procureur Théier que l'IGGL a auditionné le 17 février 2025 comme simple témoin et non comme suspect, le gendarme appelé radio-tireur, qui tirait depuis le blindé d'où est partie une grenade quelques secondes avant que Serge ne s'effondre. L'IGGN n'avait pas jugé bon de soumettre les déclarations de ce gendarme à l'expert en balistique qui avait participé à son enquête, afin qu'il puisse examiner leur cohérence au regard des informations déjà collectées sur le tir qui a atteint Serge. Mais le procureur Théier n'a pas davantage cherché à avoir l'avis de cet expert. Et pourtant, les déclarations de ce radio-tireur méritent qu'on se penche dessus. Il a notamment dit « Je n'avais aucun repère, car c'était la première fois que je tirais au lance-grenade. » Il a ajouté que c'était aussi la première fois qu'il tirait depuis un blindé. Il a expliqué qu'un radio-tireur ne voit pas très bien, que c'était son supérieur qui lui donnait les consignes pour ajuster ses tirs en fonction de là où il voyait la grenade arriver, parce que lui-même n'avait pas le temps de le faire. Il a reconnu qu'il n'était pas sûr d'avoir vérifié à chaque fois le degré de ses tirs, etc. Ces déclarations sont assez effarantes, mais ce radio-tireur du blindé a ajouté « Tout le monde semblait satisfait des tirs que nous faisions ». La lenteur de l'enquête a en tout cas sans doute permis que lui et d'autres gendarmes auditionnés se préparent une défense. Par exemple, le tireur du blindé a dit que, dans son souvenir, il tirait surtout des grenades GM2L au moment où Serge avait été atteint par une grenade CM6 ou MP7. Il a également dit qu'il était alors en manque de DPR 200 mètres. Alors le DPR, c'est un dispositif de propulsion à retardement qui est fixé à une grenade en fonction de la distance de tir recherchée. Et c'est un DPR 200 mètres qui a fracassé le crâne de Serge. Enfin, quoique le blindé ait été identifié comme étant le point de départ de la grenade qui a atteint Serge, son radio-tireur a suggéré que des gendarmes à pied postés près du blindé avaient pu toucher Serge, donc être des suspects, car ils tiraient également au lance-grenade pour garde. À présent, concernant le classement sans suite de notre plainte sur les violences policières. Dans son communiqué du 4 décembre dernier, le procureur Théier a reconnu l'existence de tirs non réglementaires pour Serge, Michael et Alix, mais il a ensuite invoqué un manque d'information et la complexité de l'affaire pour clore l'enquête. Le syndicat de la magistrature a qualifié son raisonnement d'assez ahurissant, et c'est bien le cas. Mais, en tout cas, les décisions du procureur Théier répondent toujours au même objectif, empêcher que soient désignés les responsables de la répression policière à Sainte-Soline. Ce procureur a expliqué ne pas donner suite à notre plainte pour trois raisons. Première raison, parce que les blessures avaient été causées par un tir, selon lui, conforme. Là, il fait référence à la grenade GM2L qui a atteint Olivier au pied. Mais en réalité, la conformité de ce tir est très contestable. Cette GM2L est tombée au milieu des manifestants, contrairement aux conditions d'usage exigées pour cette grenade. La deuxième raison invoquée par le procureur pour ne pas donner suite à notre plainte, c'est que les tirs non conformes qui ont été faits contre Serge, Michael et Alix pourrait être justifié par le contexte ultra-violent de la manifestation. Et pourtant, les gendarmes qui se sont filmés, qui ont choisi de se filmer, ils affichaient bien plus leur satisfaction de canarder les manifestants qu'un stress ou une peur provoquée par leur ultra-violence. Quant aux gendarmes qui se trouvaient dans le blindé stationné à 50 ou 60 mètres de Serge, on ne peut guère justifier ces tirs en invoquant la légitime défense. Enfin, dernière raison donnée par le procureur pour ne pas donner suite à notre plainte, c'est que les auteurs des tirs n'ont pas pu être identifiés. C'est faux, puisque concernant Serge au moins, dans le blindé d'où est parti le tir qu'il a atteint, il y avait bien un tireur, et ce tireur tirait. Maintenant, concernant le classement sans suite de notre plainte sur la non-assistance à personne en danger, La LDH va nous en parler dans la deuxième partie de cette réunion. Je dis juste quelques mots ici. Dans son communiqué du 4 décembre 2025, le procureur Théier assure qu'il n'y a eu aucune entrave à l'arrivée des secours. D'après lui, tous les responsables du SDIS, c'est-à-dire le service départemental d'incendie et de secours, c'est le PC des pompiers, donc tous les responsables du SDIS, tous les responsables du SAMU qui ont été entendus par les GGN, assurent que chacune des alertes a été prise en compte et que des équipes ont été dépêchées sur place dès que cela a été possible au regard de ce principe d'action et sans aucune obstruction des forces de l'ordre. Pourtant, nombre de manifestants, de médics, d'observateurs de la LDH témoignent du contraire. Qui plus est, il y a un fort contraste, on va dire, entre le choix arrêté par le gouvernement de mobiliser des effectifs imposants, d'utiliser des armements dangereux contre des manifestants et manifestantes, et le dispositif de soins qui a été mis en place pour la manifestation. Par exemple, le point de rassemblement des victimes, là, le PRV, avait été établi à 12 ou 13 km de la manifestation. Les soignants avaient interdiction d'intervenir en urgence sans accompagnement et sans autorisation des forces de l'ordre. Les enquêteurs de l'IGGN eux-mêmes ont relevé que rien n'avait été prévu dans l'organisation des secours pour évacuer des victimes en urgence vitale. Tout en affirmant qu'il n'y avait pas eu de perte de chance pour Michael, Serge, Alix et Olivier malgré leur évacuation tardive, ces enquêteurs de l'IGGN ont signalé des dysfonctionnements dans l'organisation des secours. Par exemple, l'absence de réponse du PC des pompiers aux appels du SAMU. C'est un fait qui a été signalé par plusieurs soignants. Et puis, il y a eu un temps inexplicable, selon les experts, qui a été mis par des gendarmes, motards de la gendarmerie pour venir escorter l'ambulance qui devait évacuer Serge. Les enquêteurs de l'IGGN ont écrit que le retard de 20 minutes de ces motards peut faire penser à un obstacle à la mise en œuvre des secours. Ils ont noté que ces mêmes motards avaient abandonné l'ambulance en cours de route, ce qui a obligé ses occupants à passer outre l'interdiction de circuler sans escorte pour aller secourir une personne en urgence vitale. Mais les enquêteurs de l'IGGN ont conclu que leur mission n'était pas de se prononcer sur cette question. Enfin, concernant l'information judiciaire sur les tirs tendus que le procureur a annoncé, M. Théier a dit ouvrir cette information judiciaire devant un juge d'instruction en précisant que les tirs non réglementaires pourraient constituer l'infraction de violence volontaire, par exemple s'ils n'étaient pas justifiés par la légitime défense. Il n'a pas voulu retenir l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui au prétexte que, pour caractériser cette infraction, il faut enfreindre une règle de sécurité dûment établie par un règlement et qu'aucune règle n'aurait été enfreinte par les gendarmes à Sainte-Soline. Mais là encore, c'est faux, car il existe, par exemple, concernant le lance-grenade Cougar, une instruction d'emploi qui date de 2017, qui est destinée à la police, à la gendarmerie, et dans laquelle il est écrit que le tir tendu est strictement prohibé. Mais on comprend sans peine pourquoi M. Théier a choisi de retenir l'infraction de violence policière plutôt que la mise en danger d'autrui. L'infraction de violence volontaire implique à la fois que soient identifiées des victimes et que soit prouvée l'existence de violences commises volontairement. Or, si les gendarmes des vidéos se vantent ouvertement d'avoir dégommé X manifestants et manifestantes, s'il doit être facile de les identifier à partir de leur caméra piéton, il n'est absolument pas certain que l'on puisse retrouver les personnes qui ont été victimes de leurs tirs à distance. En conclusion, face aux insuffisances de l'enquête menée par l'IGGN et face aux décisions prises par le procureur, notre collectif dépose une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, car cette procédure déclenche automatiquement la désignation d'un juge d'instruction qui reprendra totalement l'enquête sur le 25 mars 2023. Nous avons fait ce choix tout en sachant que, pour la justice pénale, les responsables d'infractions sont forcément des individus, pas des institutions ou encore la hiérarchie de l'armée, alors que les responsables des violences policières à Sainte-Soline se situent largement au-dessus de tireurs qui ne voyaient pas très bien, ou même de supérieurs qui, sur le terrain, leur indiquaient des manifestants et manifestantes comme cibles. Les déclarations du gendarme qui tirait depuis un des blindés montrent, comme les vidéos des caméras piétons, que les tirs non réglementaires n'ont pas juste été des bavures de simples gendarmes. Les déclarations des hauts gradés qui ont nié ces tirs le montrent également. Ou encore l'annonce par M. Nunez, qui chargeait l'IGGN, d'une enquête administrative sur ces tirs. À la suite de cette enquête administrative, ou de l'information judiciaire annoncée, quelques brebis galeuses identifiées à partir des vidéos seront peut-être un jour poursuivies en justice pour leur mauvais comportement. En revanche, il est peu probable que soit jamais inquiété le général de division Samuel Dubuis, qui était le chef du commandement à Sainte-Soline. En effet, il est devenu en novembre 2024 inspecteur général des armées pour la gendarmerie, sur proposition d'un ministre des armées qui s'appelait alors Sébastien Lecornu. Les violences policières pour défendre un trou vide à Sainte-Soline sont une violence de l'État. Elles ont été ordonnées, couvertes par ses responsables. Elles font partie de la panoplie répressive dont l'État dispose pour défendre l'ordre établi quand celui-ci est contesté. Les forces de l'ordre frappent de plus en plus lourdement en France ces dernières années, les mobilisations sociales ou environnementales. On va en discuter dans la troisième partie de cette réunion. Ordonner ou inciter à tirer à hauteur de tête sur des manifestants, des manifestantes, comme empêcher la prise en charge des blessés, traduit une intention de blesser gravement, sinon de tuer. Notre nouvelle plainte collective vise donc à obtenir des réponses à nos questions, mais aussi à dénoncer une fois de plus les violences policières commises par les forces, les nombreuses infractions commises par les forces de l'ordre, et à affirmer un refus de se laisser tétaniser par la terreur.
Alors, ça me paraissait intéressant d'avoir cette déconstruction de la part des acteurs, des premiers concernés, quoi, justement, hein, que ce soit pas, un discours sûr, mais un discours de. Et surtout, ce qui a été très important pour eux, pour ces intervenants, c'est de bien faire comprendre à ceux qui pouvaient se sentir solidaires des blessés de Sainte-Soline, à juste titre, que cette situation. Elle était illustratrice d'une politique globale et d'une continuité de l'État. D'ailleurs, à ce sujet, je crois que tu as un exemple particulièrement parlant avec Angelica.
Ouais. Plaisir. Il s'agit d'Angelina à Marseille, il y a 7 ans. En 2018, elle avait 19 ans, elle ne participait pas à une manifestation des Gilets jaunes, mais elle était là. Elle était là, elle a eu le malheur de marcher dans la rue, non loin de la mobilisation. Les flics l'ont croisée, elle a reçu un tir de LBD, puis ils l'ont remué le cou et lui ont fracassé le crâne sans raison. Elle aurait pu y passer. Sur les images vidéo, les policiers sont casqués et difficilement reconnaissables. Mais l'un d'eux porte cependant une attelle. Et le nom d'un autre est mentionné. Mais l'IGPN assure, comme c'est souvent le cas, ne pas parvenir à trouver les coupables. L'enquête pénale est classée deux fois. Eh oui, deux fois. Mais une nouvelle juge reprend le dossier en 2023, 5 ans après, et relance les investigations. Ces nouvelles recherches avaient été conduites cet automne à la mise en examen de 6 policiers. 2 nouveaux policiers de la BAC ont été mis en examen le 14 novembre, pour non-assistance à personne en danger. Ces nouveaux développements font suite aux aveux d'un flic, Christophe M., qui a reconnu qu'il était présent sur les lieux et qui a expliqué à la justice qu'en 2019, lorsque Mediapart avait révélé les faits, il avait voulu tout dire. Il avait même précisé à sa hiérarchie que les auteurs des coups étaient issus de la BAC. Mais il avait été découragé de parler. Un dirigeant du syndicat de police Alliance, dit-il, lui avait demandé de tout nier pour couvrir ses collègues. 7 ans après, l'espoir renaît que l'enquête puisse un jour aboutir. C'était un extrait de Mediapart. Je pense qu'il y a d'autres cas qu'on pourrait citer.
Il y a tout en fait là-dedans, c'est-à-dire qu'on coche vraiment toutes les cases. Encore le cas est exemplaire, mais il est aussi, extrêmement rare, dans le sens où il y a des vidéos, il y a un flic qui a des remords, donc qui mouille
les autres.
Enfin voilà, qui permet d'accéder à un embryon de vérité. Il y a une équipe juridique qui lâche pas le morceau. Il y a des médias locaux et des médias nationaux qui suivent le truc. Mais il y a deux remarques quand même, enfin plusieurs même. Le première, c'est que la vie de cette jeune femme est détruite. Ouais. Ça va être très compliqué puisque les séquelles sont extrêmement énorme, ouais. Graves, quoi, sont vraiment énormes. 19 ans. Hein.
Ouais.
19 ans. La deuxième, c'est que on imagine que ces individus, donc ça fait 7 ans, avant d'obtenir ne serait-ce que le moindre début de commencement d'éventuellement, possiblement une éventuelle suspension aléatoire, ont donc pu continuer de nuire. Hein.
Ils sont même peut-être montés en grade.
Ivre de la puissance qu'il aurait conféré de pouvoir saccager des vies comme ils l'entendent, comme ils le ressentent, comme ils en ont envie, comme ils peuvent s'en vanter. Puis la troisième, c'est le caractère éminemment mafieux de ces ensembles là où celui qui parle contre finalement risque plus que celui qui parle pour. Et on a évidemment là-dedans toute la hiérarchie, le triptyque habituel, syndicat de police, justice, policier. Que dire également peut-être qu'un jour on aura un réalisateur courageux qui fera un film sur la BAC, mais sur la vraie BAC, hein, pas sur la BAC Nord de ces pauvres types qui ont essayé, vous savez, hein, la BAC Nord de Marseille, hein, ces flics qui ont été injustement condamnés pour trafic de shit et puis qui finalement ont eu l'occasion de pouvoir narrer leur version sur grand écran. On attend avec impatience la possibilité d'avoir des films sur les victimes, de ceux qui subissent les agissements de ces individus. Et tu l'as dit, hein, ça rentre en écho avec ce qu'on a entendu il y a quelques minutes. Hein. On a évidemment un IGGN, un IGPN qui fait preuve de sa compétence grande. Et puis... un IGGN, donc l'inspection de la gendarmerie nationale, qui n'a pas transmis au procureur le fait qu'il y avait des protocoles qui étaient non réglementaires. Alors évidemment, avec des gens comme ça qui nous protègent, on va dire qu'on peut se passer très largement de leur protection. Hein, on se protégera certainement nous-mêmes. Alors c'est pas de l'autodéfense que je veux dire, mais voilà, hein, la vraie question qu'on va se poser, c'est qui nous protège de la police, quoi. Et désormais, qui nous protège de la gendarmerie également. On verra bien ce qu'il en est par rapport à cette nouvelle peinte qui est disposée. Le truc, c'est que, comme l'a dit Françoise, ça va permettre d'accéder au dossier, de pas faire que l'histoire s'éteigne. Mais ce qui est évidemment le plus important, c'est que l'ensemble de la chaîne de hiérarchique, pardon, soit impliqué là-dedans, parce que il est évident qu'un tel déferlement, je parle pour Sainte-Soline, hein, mais ça vaut aussi pour Marseille, qu'un tel déferlement de violence a été calculé, préparé, anticipé, couvert, etc. etc.
Ce week-end, j'étais en train de rédiger la rubrique Big Brother de notre mensuel Courant Alternatif et je me suis penché sur une prise de parole de Gwenola Ricardo. Vous ne connaissez certainement pas.
C'est une sociologue qui travaille sur l'abolition de la prison.
C'est ça, l'abolition de la police.
Aussi également.
Et qui a été auteur d'un livre qui est 1312. Alors, pourquoi 1312 ? C'est ACAB 1, CAB C3, A encore 1, et puis B 2. Donc, elle a édité un livre et elle assume et revendique sa détestation de la police en tant qu'institution. Le problème, ce n'est pas des dysfonctionnements, je la cite là, le problème, ce n'est pas des dysfonctionnements de la police ou des formes de violence policière. Le problème, c'est l'existence même de la police qui porte préjudice
à la qualité de vie en société. Dans cette perspective, l'idée de réformer la police est une idée extrêmement naïve, poursuit la sociologue. On voit bien que toutes les réformes de la police n'ont rien changé. On fait que la police violente tue, harcèle et ne protège finalement que le capital, l'ordre racial, l'ordre patriarcal. Non seulement ces réformes ne servent à rien, mais en plus elles contribuent à renforcer la légitimité de la police. Il faut donc rompre avec ces doxas de la réforme. Ce n'est pas la police qui a des problèmes, c'est la police qui est le problème.
C'est une citation. Hein.
C'est une citation.
Ouais, c'est une citation. Hein. C'est pas les propos tenus par Denis. Hein. Ça veut dire. Oui, bah oui, oui, bah, évidemment. Bah que dire de plus que la police est en dernière instance. Le défenseur du système, et que plus le système et plus la bourgeoisie, puisque ce système n'est pas un système inconnu, c'est une société de classe, plus cette bourgeoisie se retrouvera acculée, plus elle sera en crise, plus elle sera en difficulté, plus elle laissera ses sbires et ses chiens de garde toute latitude, avec ou sans raffinement, hein. Défendre son système et défendre sa position dans la société. Et là-dessus, malheureusement, les choses sont extrêmement claires, limpides, et l'empilement permanent des cas qu'on vous décrit à l'intérieur de tes chroniques Big Brother, mais aussi dans cette émission, elle ne laisse que peu de place au doute. Alors, de temps en temps, très rarement, il y a la possibilité de quelques ouvertures, mais c'est pour ça aussi que cette démarche de Sainte-Soline, elle est importante. C'est utiliser les espaces, les quelques espaces que nous pouvons avoir pour mettre sur la place publique et faire le procès également de la police et de la justice à côté de ces institutions qui traitent de manière extrêmement légère des cas tous plus monstrueux les uns que les autres.
Et il n'est pas l'heure, hein.
Alors il n'est pas l'heure, il nous reste 57. Une minute, mais on va incroyable, juste lui. Dire, eh oui, oui, faut rester, ben attends, hein, au prix où ça coûte, le temps est précieux. On va juste vous dire que ben, vous pouvez retrouver, comme d'habitude, l'ensemble des émissions sur le site de l'OCL, sur le site du Chat Noir, sur le site de la Radio Primitive, que vous pouvez retrouver les analyses dont on vous fait part au cours des différentes semaines, souvent dans le journal Courant Alternatif ou sur le site de manière un peu plus fouillée, et que eh bien dans le prochain numéro, il y aura certainement des choses sur l'Iran et qu'on aura l'occasion de parler de ce qui se passe en Iran, puisque on a noué contact avec des camarades iraniens et iraniennes qui ont beaucoup de choses à raconter sur le mouvement actuel de protestation en Iran. Voilà.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Côtes d'Igarigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Au début, il n'y avait rien. Quand soudain,